Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews pour Ça se dispute. Il est bientôt 20h. Dans un instant, votre émission met tout de suite le tour de l'actu avec Isabelle Piboulot.
À Lyon, un deuxième suspect interpellé hier soir après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière le 20 juillet. L'individu de 26 ans était en possession de stupéfiants au moment de son interpellation. Il sera présenté demain à un juge d'instruction. Le premier suspect a lui été écroué mardi. Lors de l'agression, les policiers tentaient d'interpeller un homme suspecté d'avoir commis un vol à l'arraché. Il est activement recherché. Le conseil scientifique s'est terminé. Un comité de veille va prendre le relais. Son but est d'anticiper et d'émettre des recommandations pour faire face aux risques sanitaires. Ce comité sera composé de 19 membres, dont certains du conseil scientifique. Leurs noms seront communiqués dans les prochains jours. Au Liban, des silos à grains se sont effondrés dans le port de Beyrouth. Deux des 48 tours se sont écroulés. Deux autres menacent de tomber. Il y a plus de deux semaines, un incendie s'est déclaré, fragilisant la structure qui abrite des stocks de céréales. Ce feu a ravivé le traumatisme de l'explosion du 4 août 2020 qui avait fait plus de 200 morts et 6500 blessés. Et enfin, en cyclisme, Annemiek van Vleuten remporte le Tour de France féminin. La néerlandaise de 33 ans a brillé en haut de la montée vosgienne. La huitième étape s'est terminée au sommet de la super planche des belles filles. Maillot jaune la veille, la championne olympique du contre-la-montre enfonce le clou. Annemiek van Vleuten succède à Jeannie Longo au palmarès interrompu depuis 1989.
De retour sur CNews, merci d'être avec nous en direct dans Ça se dispute avec mes invités de ce dimanche soir. Alexandre Devecchio, bonsoir.
Bonsoir,
merci d'être avec nous, rédacteur en chef au Figaro. Et Julien Drey, bonsoir.
Bonsoir,
fondateur du mouvement Réinventé. Au programme dans cette première partie d'émission, on va revenir sur cette tribune dans le journal du dimanche de Michel Onfray. Ce qu'il faut en retenir, tribune sur l'antisémitisme. Voyez ce qu'il faut en retenir avec Alexis Vallée.
La synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Reprenant la formule de Jacques Chirac en 2002, Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon l'essayiste, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme.
Voici venu le temps de sa formule anti-sioniste qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948, en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité et régime d'apartheid.
Et de dénoncer.
Cet anti-sionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe.
Le philosophe fustige en particulier une proposition de résolution contre la politique d'Israël présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des quatre groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien.
Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu. Y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand moufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les Palestiniens peuvent y prier dans des mosquées.
Michel Onfray, qui était l'invité de Élodie Huchard dans Punchline il y a quelques minutes, je vous propose d'en écouter un extrait.
On a aujourd'hui une grande tradition de gauche
qui est antisémite et qui s'estime très heureuse de pouvoir se cacher derrière l'antisionisme. Et je mets en évidence qu'il y a effectivement une grande tradition, pas seulement chez les socialistes du XIXe siècle, mais qu'il y a eu avec le Parti communiste français une période de collaboration qui a duré pendant 2 ans, collaboration avec l'occupant nazi, et ce, à la faveur du pacte germano-soviétique dont on ne parle jamais. Donc les communistes ont pu être résistants ensuite, ce que je ne nie pas, après l'opération Barbarossa, c'est-à-dire après que Hitler eut envahi l'Union soviétique, c'est-à-dire rompu unilatéralement le pacte, mais le pacte germano-soviétique avait généré dans le Parti communiste français une obéissance aux ordres venus du Comintern, de Moscou, de Staline en l'occurrence, et il y a eu effectivement 2 années d'un antisémitisme qui n'a pas été examiné.
Julien Drey, Michel Onfray nous dit ici qu'il y a une tradition antisémite de gauche. Que lui répondez-vous ?
J'ai lu sa tribune et je suis très étonné déjà dans la méthodologie, puisqu'il parle de 3 grandes séquences dans l'histoire sur l'antisémitisme.
Oui, il évoque le 3e temps de l'antisémitisme.
Oui, mais il y en a un qu'il a complètement oublié dans sa tribune, celui de 39-45. Donc j'aurais dit au moins 4e temps. Mais on ne peut pas passer sous silence celui qui a été la pire séquence dans l'histoire de l'humanité, qui s'appelle la Shoah. Voilà. Et celle-là, elle disparaît. Bon, c'est simplement comme Michel Onfray se targue d'une certaine, un certain savoir et qu'il défend un certain savoir, ce découpage-là est pour le moins surprenant. Après, je m'excuse, je ne suis pas un grand historien, mais j'ai fait quand même quelques histoires. Taxer le Parti communiste français d'antisémite dans la période où il a soutenu le pacte germano-soviétique, je n'ai pas trouvé encore de publication nette, etc. Ce qui est vrai, c'est que le Parti communiste français a obéi aux ordres de Staline et a cherché même à faire reparaître l'humanité à l'époque, et que d'ailleurs une partie des dirigeants du Parti communiste français ont refusé ce pacte. Et d'ailleurs, il y aura des règlements de compte à la Libération avec un certain nombre de dirigeants français qui seront éliminés parce que justement, ils avaient refusé. Bon, alors, moi je vois bien, mais il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y a une tradition antisémite à gauche ? Il y a eu des courants antisémites à gauche, oui, c'est vrai. Parce que c'est une tradition, je serais beaucoup plus nuancé, parce qu'il y a eu, dans la gauche française, il y a eu, je dirais, Juliette, mais il y a eu après Jaurès, il y a eu l'affaire Dreyfus, voilà, bon, donc les choses sont contradictoires, voilà. Et puis après, se servir de ça pour dire, voilà, il y a une grande continuité historique, et la preuve, c'est que maintenant, la montée de l'islamo-gauchisme se situe dans cette continuité-là. Bon, moi, je sais effectivement qu'il y a aujourd'hui une partie de la gauche qui confond antisémitisme et antisionisme allègrement. Bon, on se sert de l'antisionisme comme vecteur pour pouvoir aujourd'hui développer une politique antisémite. Ça, c'est incontestable. Voilà. Mais je pense qu'à vouloir trop prouver, on finit par rien prouver du tout parce qu'on crée de la confusion. Voilà. C'est ça, mon sentiment.
Alexandre Devecchio.
Bon, je partage une chose avec Julien Drey, c'est qu'effectivement, c'est une tribune qui se veut pamphlétaire de Michel Onfray, avec parfois une part de manichéisme, je dirais, qu'on a bien souvent trouvé dans la bouche de la gauche à l'égard de la droite. Donc lui, il fait un peu l'inverse. Il n'empêche, il y a des éléments historiques justes, on peut jouer sur les mots. Le Parti communiste, effectivement, au moment du pacte, n'a pas été que le parti des fusillés, il l'a été, mais dans un deuxième temps. Le pacte germano-soviétique, le Parti communiste français est aligné sur les communistes et effectivement est d'abord allié à l'Allemagne. Donc ça a un rappel historique qui est tout de même intéressant, de même sur le grand moufti de Jérusalem et de même sur... Alors là encore, Julien Drey dit que ce n'est pas une tradition, il y a eu des courants antisémites, mais il rappelle que l'antisémitisme n'est pas forcément l'apanage de la droite catholique, qu'il y a eu aussi une gauche qui, par anticapitalisme, a été antisémite. Donc tout cela est intéressant. Après, je pense que ce qu'il faut retenir de la tribune, plutôt que le côté historique et l'espèce de grand récit qu'il fait, c'est ce qu'il dit sur aujourd'hui. En réalité, il dit Emmanuel Macron, au moment du discours du Veldiv, a pointé du doigt un antisémitisme d'extrême droite qui aujourd'hui n'est plus la principale menace pour les juifs. L'antisémitisme qui tue et l'antisémitisme islamiste. On l'a vu avec Ilan Halimi, on l'a vu avec Sarah Halimi, on l'a vu avec Mohamed Merah, on l'a vu avec l'hypercachère. Il y aurait sans doute d'autres exemples que que j'oublie. Et souvent, une certaine gauche, pas toute, là aussi où il peut être contestable, Michel Onfray, c'est qu'il met tout le monde un peu dans le même sac, de Fabien Roussel à Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il y a des différences, il y a des sensibilités différentes. Mais une certaine gauche s'est montrée complaisante avec cet islamisme-là, refusant de voir son antisémitisme et parfois jouant les compagnons de route de militants islamistes. On se rappelle que Jean-Luc Mélenchon avait fait une manifestation commune avec des gens qui avaient crié « Allahu Akbar » devant le Bataclan. Donc je pense que c'est ce qui pointe, c'est ce danger-là que pointe Michel Onfray sur fond de discours de cette certaine gauche anti-Occident. En réalité, on a une gauche indigéniste, islamo-gauchiste, qui est extrêmement manichéenne et qui divise le monde entre dominés et dominants. Dans les dominés, il y a effectivement les musulmans, qui sont les déshérités, il y a toutes les minorités, et dans les dominants, il y a les blancs, et les dominants des dominants, en quelque sorte, c'est un peu les juifs qui se créent des oppresseurs. Effectivement, ce discours-là est dangereux et il mérite d'être déconstruit. Alors peut-être ne fallait pas le le faire de manière aussi pamphlétaire, mais parfois il faut pousser un coup de gueule pour être entendu. C'est aussi le rôle des philosophes et Michel Onfray aime les coups de boutoir.
Non mais je dirais, bienvenue au club de ceux qui dénoncent, Michel Onfray, bienvenue au club de ceux qui dénoncent aujourd'hui la montée d'un nouvel antisémitisme qui se drape des drapeaux antisionistes. Mais on n'a pas attendu Michel Onfray, un certain nombre d'entre nous, pour le dénoncer. Donc c'est fortement.
Il l'a fait depuis longtemps, Michel Onfray.
Non, mais je veux dire, on l'a pas attendu. Donc je dis, et c'est des gens de gauche qui l'ont fait. Je l'ai fait ici, vous l'avez vu, depuis longtemps et sans détour là-dessus, ce qui me vaut d'ailleurs un certain nombre de commentaires sur Twitter réguliers, etc. Je nuance quand même une chose. Il faut quand même pas banaliser l'idée qu'il y a plus qu'un seul antisémitisme. Ce serait celui de la gauche radicale et qu'il y aurait plus d'antisémitisme du tout à droite. C'est pas vrai, les faits le montrent. Monsieur Soral n'était pas rien dans la remontée de l'antisémitisme et il se targuait pas d'être de gauche autant
il
que tel.
Il était très antisioniste pour le coup. Voilà. Je sais pas très bien où il était, s'il était de gauche ou de droite.
Mais il n'y a pas que lui. Il y a des groupuscules nazis qui continuent, qui sévissent dans d'autres pays, qui font aussi des exactions terribles. Il y a même des fois des convergences très intéressantes entre un antisémitisme d'extrême droite et un antisémitisme d'extrême gauche. C'est aussi ça la réalité, la triste réalité d'ailleurs. Voilà. Alors après moi, si vous voulez, je suis ennuyé parce qu'il y a tellement d'éléments de débat dans la tribune de M. Onfray qui demande tellement de discussions. Parce que, par exemple, moi, je veux bien qu'on dise que Karl Marx a été antisémite, mais il y a des écrits au début de Karl Marx, c'est vrai, qu'il énonce le capitalisme juif, mais comme il travaille après avec Friedrich Engels, il corrige lui-même après les choses en vieillissant. Bon, voilà, vous voyez, donc c'est, moi, je pense que cette confusion-là, elle n'apporte rien. Voilà. Si ce n'est peut-être, je me permets cette petite pique, une sorte de petit coup de jeu, une petite caresse gentille à Éric Zemmour.
C'est-à-dire,
c'est-à-dire que dans la tribune libre, il y a, vous voyez, il dit la chose suivante, il dit oui, mais on a désigné Éric Zemmour comme le bouc émissaire de tout ça, etc. et tout. Bon, mais Éric Zemmour, il a dit aussi beaucoup de bêtises. Et ça a d'ailleurs suscité un énorme débat à l'intérieur de la communauté juive. Et je suis pas si certain, d'ailleurs, je lui ai dit, d'ailleurs, en face, qu'il nous rendait service, ceux qui se revendiquent de cela, ou qui ont, comme moi, qui sont des juifs, voilà, pour que les choses soient claires. Eh ben, je suis pas sûr que tout ça était bien fait. Voilà.
Il dit également c'est un petit peu le débat qu'on avait actuellement, mais il le dit noir sur blanc, le PCF aujourd'hui, dans les débats actuels, le Parti communiste français est en pointe sur les combats antisémites et la France insoumise en compagnon de route.
Moi j'aurais dit l'inverse, c'est la France insoumise qui, c'est d'ailleurs ce qui me désespère. Parce que je vais vous faire une confidence, moi j'ai connu Jean-Luc Mélenchon comme étant un grand défenseur de l'État d'Israël. Quand il était à Massy, quand il était sénateur, il expliquait à tout le monde que c'était la seule démocratie de la région. Et je me désespère de voir cette évolution qui s'est installée et qui n'est pas une continuité idéologique. Voilà, de sa part. Et c'est la France insoumise qui pousse, elle, qui est dans la plus grande confusion. Après, il y a plein de choses qui vont pas. Je veux dire, quand la mairie du 20e arrondissement fait un communiqué sur le rafle du Veldiv où elle mélange tout, c'est-à-dire elle mélange les LGBT, les tziganes, etc., en disant le rafle du Veldiv, c'est tout ça. Non, c'est pas vrai. Voilà. Elle s'est excusée après, mais ça prouve qu'il y a beaucoup de choses sur le plan de la confusion, dans notre pays en ce moment et qu'il faut faire très attention.
Alexandre Becchio.
Sur Éric Zemmour, effectivement, Julien Drey dit, il a dit des bêtises, il n'a pas forcément rendu service au débat, je peux le rejoindre là-dessus. Mais n'était-il pas disproportionné qu'Emmanuel Macron, dans son discours sur le Veldiv, cite Éric Zemmour? Est-ce que le danger pour les Juifs aujourd'hui principal, c'est Éric Zemmour? Je ne crois pas. Je crois que le danger, effectivement, pour les Juifs principal, c'est l'islamisme.
Je ne me rappelle pas que Emmanuel Macron ait cité nommément Éric Zemmour.
Non, mais il n'a pas cité nommément, mais tout le monde a compris. Il l'a cité implicitement, si vous préférez. Et peut-être qu'il aurait été plus utile qu'il en fasse davantage sur cet antisémitisme qui tue aujourd'hui les Juifs, qui fait qu'il n'y a plus de Juifs dans les écoles du 93. Donc c'est ça, je crois, la menace principale, et c'est ça l'intérêt de la tribune de Michel Onfray, avec, je rejoins Julien Drey, un certain nombre de raccourcis, mais il n'est pas le seul à faire des raccourcis. Quand Julien Drey dit Éric Zemmour n'a pas forcément rendu service, il n'a pas bien posé le débat, il a commis des erreurs, ça je veux bien l'entendre. Quand on dit Éric Zemmour, c'est l'extrême droite antisémite, ça me paraît être aussi un raccourci. Donc voilà, Michel Onfray fait des raccourcis, mais d'autres en ont beaucoup fait et ont beaucoup instrumentalisé cette période de l'histoire. Moi, je crois qu'il faut d'ailleurs arrêter d'instrumentaliser la Shoah, de pointer des fascistes là où il n'y en a pas, et désigner les adversaires tels qu'ils sont et les menaces telles qu'elles sont. On n'est pas dans le retour des années 30, je pense que c'est à un autre contexte. Effectivement, aujourd'hui, les Juifs sont de nouveau menacés. Il y a péril pour la société française, mais les périls ne viennent pas du même endroit. Je ne pense pas que le péril aujourd'hui, ce soit l'extrême droite. C'est effectivement plutôt l'islamisme et plutôt une extrême gauche qui est complaisante avec cet islamisme.
Il y a plusieurs choses dans le débat. Je dirais, la première chose sur laquelle je suis d'accord, il faut arrêter de se servir de l'histoire pour essayer de prouver des choses aujourd'hui. Mmh. Et à force de vouloir, c'est pour ça que je dis à force de vouloir trop prouver, on ne prouve rien, on crée de la confusion. Voilà. Deuxième chose, est-ce qu'on n'est pas du tout dans les années 30? Pour une part, les choses se discutent. Il y a une très bonne, vous avez publié d'ailleurs une très bonne tribune dans le Figaro, d'un monsieur Lacroix qui raconte la Weimar, ce qui s'est passé, etc.
Non, mais il y a des points communs, mais je dis juste que la menace n'est pas la même.
Non, je suis d'accord.
Les fascistes d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ils ont un autre visage.
L'histoire ne se répète jamais de la même manière, mais il y a quand même des traits qui sont à noter, et c'est en ce sens-là que l'histoire nous sert. Elle nous sert à éclairer. Elle nous sert pas simplement à une forme de manichéisme, elle nous sert à éclairer, à comprendre, et à partir de là, à éviter de recommencer les erreurs. C'est vrai que dans la situation actuelle, on retrouve en France des éléments qui ressemblent étrangement à ce qui s'était passé dans la République de Weimar. Voilà, la montée d'un extrémisme radical qui était à l'époque emmené par le Parti communiste allemand et dont on pourrait dire qu'aujourd'hui la France insoumise a pris la chose qui effraie la société, une radicalisation à l'extrême de l'autre côté. Contre tout cela, bon, enfin, on pourrait discuter, mais il y a des éléments, et évidemment, le juif qui devient le bouc émissaire dans cette situation, et les juifs allemands qui ne s'attendaient pas du tout à cela, parce que une grande partie des juifs allemands, ils étaient convaincus qu'ils étaient tellement allemands que rien ne pourrait leur arriver, parce qu'ils avaient combattu pendant la guerre de 14, quand ils ont vu les SS arriver à leur porte, ils ne comprenaient pas, ils ont parti d'entre eux, c'est pour ça qu'ils voulaient même pas quitter le pays, voilà. Alors, bon, moi je crois qu'il y a une vigilance permanente à avoir, et effectivement, aujourd'hui, il y a un combat, il y a un combat terrible avec une partie de l'extrême gauche qui s'est laissée, pour une part, certains phagocytés par l'islamisme radical, et pour une autre, qui a un discours qui est pour le moins complice.
Puisqu'on évoque la France insoumise, entre autres, depuis tout à l'heure, Alexis Corbière, député justement de la France insoumise, était l'invité de Lady Huchard tout à l'heure. Écoutez.
Monsieur Onfray n'est là que pour ça, que pour fabriquer du buzz autour de calomnies. Ça intéresse pas les gens? Pourquoi donner autant de tribunes à monsieur Onfray? Qui est-il, monsieur Onfray? Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de le lire. Ça fait des années qu'il nous a insultés de différentes manières et qu'il trouve très intéressant ce qu'a fait monsieur Zemmour. Chacun appréciera. Moi, je veux dire, ce sont des idées d'extrême droite. Il y a à la fois ceux qui portent le racisme et aussi il y a ceux qui, comme Onfray, passent leur temps à insulter la France insoumise en racontant tout et n'importe quoi. Bon, mais je le laisse écrire, il fait ce qu'il veut. Il est libre, et puis voilà, très bien. Moi, je m'en fiche de M. Onfray.
Il y a un mépris chez ce monsieur, c'est formidable. C'est-à-dire, il ne veut pas de débat. C'est-à-dire, je suis un petit télégraphiste, il y a cette espèce de morgue et de mépris chez ce petit personnage-là qui est assez délirant, parce qu'on imagine bien qu'en 1793, c'est le personnage qui aurait évidemment signé les papiers pour qu'on aille me chercher et qu'on me décapite dans la foulée. On voit la tête qu'ont les gens qui auraient été les commissaires du peuple à cette époque-là. Vous savez, on se demande comment il y a pu avoir des salauds, des ordures, des gens qui vous ont envoyé la guillotine, ou des gens qui ont envoyé des lettres anonymes, des gens qui ont fait partie des polices politiques, des gens qui nous ont collés dans les goulags. Et ben avec Monsieur Corbière, on a effectivement le portrait type.
On est sur les attaques, attaques personnelles, c'est dommage.
Si vous permettez une petite remarque, je rappelle quand même que Michel Onfray a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon en 2012, hein, si je me souviens bien, et qu'il a même été compagnon de route à un moment donné. Alors après, il a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses peut-être, etc. Mais c'est pour ça que je trouve que la manière dont la France Insoumise lui répond n'est pas intelligente. Il faut répondre sur les faits, il faut répondre sur le fond. Il ne faut jamais mépriser les gens sur le plan intellectuel en disant « ça ne m'intéresse pas », etc. D'autant qu'il y a des problèmes. Je veux dire, la résolution présentée, signée par la présidente Madame Panot, elle pose un énorme problème, parce qu'y compris ce qu'elle dit dans le texte est insupportable. Bon, après, on peut être contre la politique du gouvernement israélien, on peut être un ardent défenseur des droits du peuple palestinien, etc. Mais on ne dit pas que l'État d'Israël, c'est l'apartheid, et que c'est génétiquement, quasiment, dans la création de l'État d'Israël. Je rappelle d'ailleurs, au passage, c'est juste, y compris par rapport à M. Onfray, qu'en 1948, quand l'État d'Israël est créé, le premier État qui reconnaît l'État d'Israël, c'est l'Union soviétique. L'ambassadeur de l'Union soviétique dort à la porte des Nations unies pour être le premier à reconnaître l'État d'Israël. Vous voyez comme quoi les choses ont changé.
Non, mais effectivement, l'histoire est complexe et encore une fois, je trouve que c'est dommage de l'instrumentaliser, mais Michel Onfray n'est pas le seul et ça fait des années qu'on multiplie les analogies historiques de manière, à mon avis, contre-productive et qui n'ont fait que fracturer la société française. Je vais pas rappeler à Julien Drey son passé, mais le touche pas à mon pote faisait référence aussi à cette période de l'histoire et je suis pas sûr que c'est rendu service à la France. Parenthèse refermée, sur le reste, on est d'accord, l'histoire est complexe et aujourd'hui il faut se concentrer sur les menaces qui visent la France et effectivement la menace, je crois, pour les juifs, la menace pour la cohésion de la société française, c'est l'islamisme, c'est le communautarisme et ce sont ces idiots utiles. Là, Michel Onfray s'en prend à la France insoumise. On pourrait par exemple citer Éric Piolle qui, en instrumentalisant la question du burkini comme il le fait, se fait l'idiot utile de groupuscules islamistes qui veulent capturer la société.
Non mais d'abord, je passe mon temps à dire que les raccourcis sont faciles. Et là aussi, le raccourci est facile. Il y a « d'en touche pas, mon pote ». Il y avait une référence à l'étoile jaune la et donc vous saviez, etc. et tout. C'est pas vrai.
D'abord, non, mais je vous jette pas la pierre. Mais, dire que chacun fait des erreurs. Chacun instrumentalise.
Je crois pas que la petite main de SOS Racisme était une erreur. Je pense au contraire qu'elle a permis une prise de conscience. Après, moi, on pourra avoir un débat. Je le souhaite d'ailleurs depuis très longtemps qu'on ait un débat sur tout ça. Parce qu'après, c'est qu'est-ce qui s'est passé.
Elle faisait référence à l'étoile jaune.
Mais oui, parce qu'il fallait faire référence au racisme, antisémitisme, etc. C'est pour ça que je suis choqué que dans la tribune libre de M. Onfray, il fasse... Moi, j'aurais dit à ce moment-là, il y a quatre séquences, mais je passe pas... quand même... D'ailleurs, je m'étonne que dans les critiques, personne n'ait tout de suite dit, attendez, il en manque une, et c'est pas là, et c'est pas rien. Voilà. Alors après, moi, j'ai du respect pour M. Onfray, il a des qualités intellectuelles incontestables, il y a plein de choses il avait écrit un livre sur Camus qui m'avait beaucoup ému, donc je le respecte, je débat avec lui. Et dernière chose, moi, j'ai jamais dit que Éric Zemmour était le roi des antisémites, qu'il était...
Non, voilà. Je sais bien, pas vous. Bon.
Et je le comprends parce que je pense qu'il a à vouloir trop prouver un certain nombre de choses, il a dit des bêtises, et il a dit des bêtises notamment sur toute la période de Vichy.
Michel Onfray fait un rapprochement, pour terminer cette première partie, entre l'antisionisme et l'antisémitisme. La question, peut-on être quand on est antisioniste, sommes-nous forcément antisémites, Julien Drey ?
Non, parce que qu'est-ce que c'était que le sionisme ?
Pour lui, c'est le cas, c'est ce qu'il dit.
Oui, mais plus exactement, qu'est-ce que c'était que le sionisme ? Le sionisme, il existe à la fin des années, en 1890, par M. Herzl, qui pose la question du foyer juif. Voilà. Et donc de la création d'un État d'Israël, qui renvoie à l'histoire du peuple juif. Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, d'ailleurs. Vous savez, ils sont en train, les uns et les autres, de gratter à Jérusalem, là où il y a le mur, pour voir qui était le premier avant. Le peuple juif, il était là, voilà. Et on a la destruction du temple, après la dispersion, etc. Mais le foyer juif, il a toujours... Vous savez, dans toutes les familles juives, il y a un moment donné, dans les fêtes, où on dit toujours « l'an prochain à Jérusalem ». Voilà. Donc c'est une tradition, ça ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc la création de l'État d'Israël, elle est intrinsèquement liée à l'histoire du peuple juif. Intrinsèquement. Et contrairement à ce qu'on raconte d'ailleurs, l'État d'Israël n'est pas simplement créé à cause de la Shoah comme une mauvaise conscience de l'Occident. Il est créé parce qu'il y a un long combat qui a déjà commencé avant l'existence de la Shoah pour créer un foyer pour le peuple juif. Bon voilà, vous savez que on parle de l'histoire, mais Staline lui-même voulait créer un État juif. Il s'est même posé la question de savoir il allait le faire. Alors c'était pas un cadeau qu'il voulait leur faire, c'est vrai. Mais bon voilà, donc après on peut Après, quand Israël se crée, d'un certain point de vue, en 1948, c'est un foyer de démocratie dans la région. C'est un foyer de principe dans la région. En face, vous n'avez que des dictatures, avec le grand moufti de Jérusalem, qui évidemment a demandé à Hitler, dans ses entrevues, l'extermination du peuple juif. Le grand moufti, on sait désormais, ça a été écrit par un ami à moi qui s'appelle Yves Azeroual, dans un très beau livre, qui démontre justement que la question de la solution finale est posée déjà dans les discussions entre le moufti de Jérusalem et Adolf Hitler. Voilà, donc c'est, à l'époque, c'est un emblème, l'État d'Israël. Mmh. Et une partie de la gauche se revendique, d'ailleurs, de cela. Parce que, y compris, elle revendique le système qui est, vous savez, les kibbutz. Voilà, donc, bon, après, donc, ce qui alors, est vrai, c'est que...
Être antisioniste, est-ce être antisémite?
Non, après, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que l'État d'Israël... On ne peut pas être antisioniste si on explique que c'est la destruction de l'État d'Israël. Mmh. Voilà, ça c'est des bêtises. Voilà, c'est parce que l'État d'Israël maintenant c'est un fait. Et d'ailleurs ils peuvent courir tous ceux qui veulent le détruire. Il est là et il est bien là.
Alexandre Devecchio.
Non, je pense qu'on peut être antisioniste au sens où on peut critiquer la politique d'Israël, la perpétuation de la colonisation en Israël. Il y a des choses. On peut être pour, on peut être contre, et donc on peut être antisioniste sans être antisémite. Mais beaucoup se réfugient derrière l'antisionisme pour aller plus loin qu'une critique de la politique d'Israël et aller vers une critique finalement des Juifs. Disons-le. D'ailleurs, la manière dont est formulée cette proposition, cette résolution voulant dire que Israël est un État qui mène une politique d'apartheid, et ça, Michel Onfray le rappelle et il a raison. Il parle quand même de la concurrence entre deux races. C'est quand même étonnant d'entendre ça à gauche. On a fait voter une loi pour supprimer le mot race de la Constitution. Moi, j'étais pas forcément favorable à ça. C'est pas parce qu'on supprime les mots qu'on supprime les réalités. Mais voir revenir le concept de race aujourd'hui à gauche, dans une gauche indigéniste, essentialiste, je trouve ça particulièrement inquiétant. Il y a une race humaine. Il n'y a pas de... voilà. Après, il peut y avoir des communautés, des ethnies, des religions différentes. Mais en utiliser le mot race, je trouve que ça dit des choses, et effectivement beaucoup trop. Voilà, comme l'antisioniste n'est pas condamné par la loi, utilise le mot sioniste, mais il faut entendre le mot juif.
Moi, je vais être un petit peu plus ferme sur la notion.
En 30 secondes,
autant, Julien, on pouvait au départ, dans le début des années 50, il y avait y compris des antisionistes en Israël qui voulaient créer les conditions du dépassement de l'État d'Israël, d'un État binational, etc. Autant aujourd'hui, je pense que cette question, elle est résolue par l'histoire. Et donc, quand on est antisioniste, ça veut dire, sur le fond, qu'on se sert de ce mot-là pour être antisémite. C'est tout, point à la ligne.
Messieurs, vous restez bien avec nous, vous restez bien devant votre télévision. On revient tout de suite sur CNews. De retour sur CNews, il est 20h30, ça se dispute, ça continue dans quelques instants, mais avant le tour de l'actu avec Isabelle Piboulot.
Incendie à Aubais dans le Gard. Un pompier grièvement brûlé a été évacué au centre hospitalier de Montpellier. Trois autres ont été légèrement blessés à la suite d'un retournement de flammes par le vent. Le feu s'est déclaré vers 15h. Près de 200 hectares de pinèdes ont été détruits au sud de Nîmes. L'autoroute A9 est fermée dans le secteur alors que des renforts de pompiers des départements voisins sont attendus. Les pilotes de Lufthansa menacent de faire grève face à l'inflation. Ils réclament notamment une hausse de 5,5% de leur salaire. Ce conflit s'ajoute à un autre déjà en cours avec les personnels au sol. Dans les deux cas, la direction refuse jusqu'ici d'accéder à leurs revendications salariales. Et enfin, un mot de tennis. Semaine parfaite pour Caroline Garcia. La Française remporte son deuxième titre sur la terre battue de Varsovie. Un deuxième trophée pour cette année, le 9e de sa carrière. La Lyonnaise s'est imposée en finale face à la Roumaine Anna Bogdan 6-4-6-1. Un succès qui la classe à la 32e place mondiale, soit numéro 1 française devant Alizé Cornet, 38e.
Merci Isabelle Piboulot. On vous retrouve dans... dans 30 minutes, Alexandre Devecchio, vous êtes toujours avec nous, Julien Drey également. On va évoquer avec vous, dans cette deuxième partie, une nouvelle langue qui est née, la langue féministe universelle. C'est en tout cas l'initiative d'une artiste, une autrice, une comédienne, une certaine Tiffany Day, qui a créé cela pour, dit-elle, combattre le masculinisme de la langue française. Donc une initiative ultra-féministe, on va dire ça comme ça. Pour vous faire une idée, je vous propose d'écouter un extrait.
En cette moment, pour me faire de la bienne, je regarde des documentaires sur les dinosaures. Et la raison pour laquelle ces animaux Je dis cela parce que j'accorde à la féminine et non parce que je ne connais pas la langue française ou je sais pas quoi. La raison pour laquelle les dinosaures me font de la bienne depuis que je suis petite, je pense que ça tient énormément au fait que parce qu'elles ont disparu longtemps avant que l'homme, avec un tout petit H minuscule, n'arrive, ils peuvent plus leur faire de mal. Et alors j'ai un problème parce que j'ai envie de regarder des documentaires, des conférences, et je la fais, mais jamais ils vont parler de la troodon, la stégosaure, la ptérodactyle.
Vous en voulez encore un petit peu? On va vous remettre une petite dose supplémentaire, si vous voulez bien.
Qu'il y a souvent, et encore aujourd'hui, des questions et de compréhensibles étourderies à propos de mon nom, j'y réponds. Étant moi-même fâchée avec l'orthographe et in fine avec toutes les règles non menstruelles, donc illégitimes, elles, en particulier celles dictées par l'Académie misogyne, croyez bien que j'ai une grande compréhension et même aussi une sympathie quant aux approximations qu'on peut faire à leur alphabétisation. D'abord, ma préfemme. Oui, car je n'allais pas appeler comme on m'appelle au masculin un prénom. Encore moins se dire une prénom. Vous imaginez, prénom. Faut pas exagérer, non?
Voilà. Grossièrement, l'idée, c'est de mettre des E un peu partout pour féminiser la langue française. Bon, il est pas malsain de s'interroger, d'essayer de comprendre la langue française. Néanmoins, ça va peut-être un petit peu trop loin, Alexandre Devecchio.
Ça m'a l'air d'être extrêmement fantaisiste. Elle n'est pas antipathique, elle a le mérite de ne pas être trop agressive, ça m'a l'air d'être une artiste un peu déjantée, plutôt qu'une idéologue. Donc ce genre d'initiative m'amuse et je pense qu'il faut le prendre à la dérision plutôt qu'autre chose. Par contre, il y a des choses plus inquiétantes, par exemple l'écriture inclusive, le fait qu'elle tend à s'institutionnaliser, que certains profs l'utilisent, que dans l'administration, alors même qu'Edouard Philippe avait dit qu'elle ne devait pas être utilisée, en réalité, elle est utilisée dans les mails, etc., parfois dans des documents officiels. Je trouve ça beaucoup plus inquiétant parce que je me méfie toujours de ceux qui veulent faire table rase, écrire une nouvelle langue, transformer la langue, transformer le réel. Je crois que ça n'aboutit finalement qu'à nier l'humanité, la complexité en fait, si vous voulez, de l'humanité et à dresser in fine les hommes contre les femmes et surtout à faire qu'on puisse plus comprendre parce que l'écriture inclusive est illisible et ça permet plus de se comprendre. C'est un nivellement par le bas, c'est une forme de propagation de l'ignorance et vraiment les régimes pour le coup totalitaire. Je dis pas que ceux qui font ça sont des totalitaires, mais ont toujours commencé par s'attaquer à la langue. C'est la logique de la révolution culturelle chinoise. Quand vous lisez Orwell, 1984, il parle de la neuve langue. Donc, sur le principe de bonnes intentions d'interroger la langue, en réalité, il y a une manière de vouloir faire table rase du passé, de régler ses comptes avec les hommes. Et je crois que ça ne n'aide pas en réalité, ça n'aide personne l'écriture inclusive. C'est pas pour ça que les femmes de ménage qui sont exploitées vont être mieux traitées. C'est pas pour ça que les jeunes femmes dans les banlieues qui sont victimes du machisme ordinaire, pour ne pas dire plus, leur condition va s'améliorer. Donc c'est un peu un délire idéologique qui, je crois, est dangereux et qui n'aura que pour conséquence qu'on aura encore plus d'illettrés. Donc là, pour le coup, c'est inquiétant. Ça, c'est plutôt une fantaisie qu'autre chose.
Effectivement, c'est une initiative, comme on peut le lire dans le Parisien du jour, hein. C'est une initiative artistique, féministe. Et cette artiste n'entend pas se battre pour obliger tout le monde à parler comme elle, évidemment. Julien Drey.
Ouais, je pense que c'est une initiative artistique et que, comme toute initiative artistique, elle est libre d'exister. Bon, elle interroge, elle interpelle. C'est pas forcément toujours très compréhensible, d'ailleurs, dans ses propos, ce qu'elle dit. Bon, mais bon, ça, c'est une chose. Mais par contre, ça peut exister, pas de commentaires particuliers à en faire. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme de féminisme radical qui s'installe et qui, d'après moi, passe à côté des vrais combats féministes. C'est-à-dire que, comme le disait Alexandre, le vrai combat féministe aujourd'hui, c'est le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On n'y est pas. Sur le plan salarial, sur le plan professionnel, c'est le combat contre les féminicides. Et on n'est pas. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'est pas assez. C'est combat certainement contre des comportements machistes, etc. Et je pense que chacun d'entre nous doit se revisiter, y compris par rapport à son histoire. Je ne conteste pas tout cela. Mais il faut faire attention que, à ce qui est le combat pour l'égalité ne se substitue pas une sorte de combat de revanche. Et ce combat pour revanche, il va bloquer le combat féministe à un moment donné, alors qu'il est à deux doigts de remporter des grandes victoires dans la société.
Et si jamais c'était l'évolution de la langue française ? Par exemple, quand on lit le vieux français, on ne comprend rien ? Alexandre Devecchio. Ah oui, là, c'est poussé, voilà. Là, voilà, je cherche à provoquer un petit peu.
On comprend un peu le vieux français, en réalité, quand on s'y penche. Et le français nouveau prend ses racines, je dirais, dans le vieux français. Donc c'est pour ça que je disais, moi, je suis attaché à l'idée de continuité, justement. Et quand on veut faire table rase, généralement, c'est pas comme ça qu'on fait évoluer, justement, les choses. On est dans une logique radicale, révolutionnaire, qui crispe tout le monde et qui, pour le coup, fait qu'on comprend rien aujourd'hui. Enfin, c'est surtout ça, moi, que je retiens. C'est que moi, je comprends rien au charabia de cette jeune femme qui a l'air très sympathique, que l'écriture inclusive est illisible et va pas aider ceux qui ont des difficultés à l'école. Donc, c'est pas le vieux français qu'on comprend pas, là. C'est la nouvelle langue postmoderne qui est incompréhensible.
Et le vieux français, il a évolué pour devenir ce qu'il est, justement pour faciliter sa diffusion. Bon, voilà, pour une part. Oui. Donc, je veux bien qu'on fasse des comparaisons historiques. Peut-être que là, le français va évoluer, y compris parce que, grâce à toutes ces nouvelles machines, on est obligé de parler autrement et d'introduire des nouvelles expressions qui sont pas forcément très jolies d'ailleurs. Bon, mais franchement, moi, je crois que qu'on revisite la langue, que, y compris dans l'histoire des mots, que les linguistes montrent bien les logiques telles qu'elles sont. Je suis pas contre, mais franchement, je pense que ça fait partie de la recherche intellectuelle. Les vrais combats féministes, ils sont, d'après moi, pas là.
En tout cas, demain, il y a une date qui va marquer l'après-Covid, enfin, diront certains, même beaucoup, je pense. C'est la fin de l'état d'urgence sanitaire. Que cela va-t-il changer ? On voit cela avec Yann Effelé.
Après plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 vont disparaître. Dès demain, le pass sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront plus être appliqués sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur ? Un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés. Le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. Ils permettent entre autres de connaître le nombre de cas, d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de la Santé aura le dernier mot.
Alexandre Devecchio, enfin ?
Oui, enfin, et je pense qu'il faudra s'interroger sur ce qui va rester de tout cela. Alors, ça montre qu'on a quand même réussi à en sortir, mais au bout de trois ans, est-ce qu'un état d'exception est toujours un état d'exception ? Est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans le non-respect de l'état de droit dans cette histoire ? Parce que j'observe que beaucoup sacralisent l'état de droit, par exemple, sur la question des migrants. Si aujourd'hui, on a autant de mal à expulser des clandestins, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de recours possibles et souvent les politiques se réfugient derrière l'état de droit. Or là, il y a des principes fondamentaux élémentaires qui ont été bafoués. Alors il fallait peut-être le faire, mais il ne faut pas que désormais ça devienne un réflexe. Si demain, il y a, en cas de crise écologique, en cas de nouvelle pandémie, est-ce que il faudra de nouveau enfermer les gens chez eux ? Sur le plan démocratique, est-ce que ça devait passer par un conseil de défense qui était au-dessus de l'Assemblée nationale et qui ne permettait pas d'avoir de véritables débats ? Est-ce qu'il fallait confier des questions éminemment politiques finalement à des scientifiques ? Il y a un conseil de scientifiques qui conseille sur la science, c'est une chose, mais qu'on prenne toutes ces décisions au pied de la lettre et que ça devienne une politique, est-ce qu'il fallait le faire ? Je ne sais pas. Tout cela a accéléré quand même une mutation technologique qui était en cours, mais ça l'a accéléré, l'ubérisation du monde, le télétravail et finalement l'atomisation de l'individu. Donc je crois que ça Ça laissera des traces. Les historiens du futur nous diront ce qu'il faut en retenir. Mais soyons vigilants à faire en sorte que tout cela reste un état d'exception. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette crise, c'est parfois l'abdication de tout esprit critique d'une partie des Français. Certains ont approuvé les mesures après y avoir réfléchi en se disant que à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. D'autres ont voulu les discuter, mais je pense qu'il y a une partie des Français qui ont été aveuglés par la peur, parce qu'il y a eu une politique de la peur dans tout cela. On me disait attention, si mamie partage Noël avec toute la famille, vous allez tuer mamie. Je caricature un peu. Et donc, face à la peur, certains Français ont oublié d'interroger ces mesures. Et ça, c'est préoccupant pour la démocratie. Cette crise nous a montré aussi comment toute une société pouvait devenir incroyablement docile quand il y avait la peur qui était en jeu.
Face à un certain danger, quand même.
Tout cela doit nous faire réfléchir. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais on ne doit pas le banaliser.
Julien Drey.
Moi, je crois que, bon, d'abord, c'est une bonne chose qu'on sorte de tout cela, qu'on essaye de donner le sentiment qu'on en sort. Et donc, c'est vrai que c'est marqué d'une croix, ce jour. Bon, maintenant, il faudra effectivement en tirer tous les bilans. Et comme on commet souvent cette erreur, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose, dans la société où tout va vite, on n'a pas le débat nécessaire ou la réflexion nécessaire, et on met pas, on ne fait pas travailler la société pour qu'elle puisse elle-même tirer, à partir de là, tout le bilan de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je pense que, puisque nous avons plusieurs assemblées, je pense par exemple que le Conseil économique et social, dont souvent on se pose la question savoir à quoi ça sert, bah par exemple, ça pourrait être un énorme travail du Conseil économique et social de pouvoir faire le bilan de toute cette période, dont toutes les questions qui ont été posées, y compris par Alexandre, bon, qui ne sont pas forcément nouvelles. Je veux dire, on sait que le franchissement des libertés est toujours lié à la question de la peur, et que c'est comme ça qu'on abandonne la liberté au nom de la peur de quelque chose. Bon, et donc c'est un sacrifice qu'il faut faire, voilà. Bon, mais en tous les cas, ce qui est vrai, c'est que fort des expériences passées, eh ben, on aurait pu être peut-être un peu plus prudent, mais on ne l'a pas été. Puis après, il y a tout notre système d'alerte, notre système de fonctionnement hospitalier qui a été quand même sacrément interrogé par tout ça. Alors il y a eu une communion extraordinaire de notre pays avec le personnel de santé. On allait tous les soirs être là. Puis tout doucement, on est passé à autre chose. Mais l'hôpital public, lui, il reste en crise. Et le personnel de l'hôpital public, c'est pas qu'il ne se contentera pas de quelques, il ne peut pas se contenter de quelques formules ou de quelques aménagements. Il y a vraiment une refonte de notre système. Maintenant, et je finis là-dessus. La crise du Covid, et c'est en ce sens-là, elle nous interroge sur une question plus importante, c'est que d'après moi, elle a accentué des phénomènes de société qui étaient en cours, et elle leur a donné une dimension nouvelle. Je pense à ce concept de société de renoncement qu'a développé Robert Zahrader dans le Monde Hier, et on voit bien qu'avec le Covid, un pas a été franchi, c'est-à-dire on renonce, le travail tel qu'il était, comme un instrument de promotion sociale, avec un but de promotion sociale, est aujourd'hui revisité par toute une catégorie de population qui disent mais à quoi ça sert tout ça ? La vie en communauté même est revisitée, c'est-à-dire on se dit finalement, il vaut mieux se retirer de toutes ces sociétés, etc. Et donc le Covid, il a accentué cette société du renoncement, qui n'est pas une bonne chose pour la démocratie, parce qu'il y a aussi le renoncement démocratique.
Alors j'ai justement une bonne nouvelle pour vous, cher Julien Drey, le télétravail n'est plus aussi plébiscité qu'avant. Voilà, selon une étude.
C'est une bonne chose.
Pour moi,
c'est une bonne chose, parce que cette société où tout le monde est derrière son ordinateur et ne peut plus parler, ce collectif que forme un collectif de travail, où on échange, on discute, et l'idée que finalement la machine se substitue à tout, pour moi, c'est un danger.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a quelque chose de détestable de cette société où on pouvait plus se toucher, où on pouvait plus discuter, et effectivement où on avait l'impression que le futur de la sociabilité devait se faire par écran interposé. Mais je crois que ça laissera tout de même des traces, hein. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Julien Drey. Dans la grande démission actuelle, c'est effectivement l'une des conséquences de cette habitude prise du télétravail, de plus se rendre au boulot. Et je pense que au départ, le télétravail avait été plébiscité par les salariés, les chefs d'entreprise étaient un peu réticents, et je crois qu'aujourd'hui ça va se retourner contre les salariés, hélas, parce que quand on y réfléchit bien, les chefs d'entreprise, pour certains, tous heureusement ne sont pas cyniques, certains pensent que l'entreprise c'est pas seulement une question de management et de rationalité des coûts, mais certains se sont dit bah, finalement pourquoi s'embêter à acheter des locaux, pourquoi finalement faire des contrats de travail, la société de la liberté, de la flexibilité, c'est peut-être prendre des salariés en télétravail pour certaines missions, et puis on s'en débarrassera après. Donc je pense que le risque, c'est de ça débouche sur la fin du salariat et une société encore plus précarisée qu'elle ne l'est. Et là, il y a une partie des salariés, y compris ceux qui sont dans la grande démission, qui se disent bah, finalement, il y a le chômage, on peut revenir travailler quand on veut, je n'accepte pas tel travail parce que je préfère travailler de chez moi. Ceux-là pensent un peu à court terme, je trouve, parce que demain, c'est peut-être plus de précarité avec des contrats de travail moins sûrs et puis des délocalisations en plus. Après tout, si on peut travailler à distance, pourquoi, même dans des domaines qui semblaient être épargnés par les délocalisations, pourquoi ne pas travailler avec un Chinois qui parle anglais à l'autre bout du monde. Donc on n'a pas fini de voir les évolutions liées à ces mutations technologiques.
Non mais moi, je préfère le terme renoncement à démission, parce que le terme renoncement veut dire quelque chose, veut dire qu'on renonce à quelque chose et on essaie de s'extraire de la société, de se construire son petit bonheur local en le reconstruisant d'une autre manière. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le Covid, il a accentué quelque chose qui, d'après moi, va poser problème dans les années à venir, c'est une déshumanisation de tous les services. Puisque l'idée, c'est qu'il fallait avoir le moins de contacts possible. Donc vous avez maintenant une désémination totale de tous les services, et à commencer par les services publics. Et la fracture numérique, elle concerne pas simplement les jeunes et les vieux, elle concerne toutes les sphères de la société. Et moi, je pense que cette déshumanisation de tous les services publics, taper un, taper deux, taper je sais pas quoi, et puis comme par hasard, ça s'interrompt, vous comprenez plus rien, etc., elle est terrible. Elle est terrible dans la fracture entre ceux qui ont le maximum de savoir et jouent avec ces instruments, etc., et puis ceux qui sont à un moment donné lâchés. Et quand vous êtes lâchés, ce qui est très grave, c'est que dès que vous lâchez sur tout après, parce que vous n'y comprenez plus rien. Et c'est au plus grand bénéfice des puissants, tout ça. Ou des grandes administrations qui en profitent grâce à cela pour ne pas résoudre les problèmes.
Fin de l'état d'urgence sanitaire donc demain, fin du conseil scientifique également aujourd'hui. C'est un petit peu ce qui va marquer l'après-Covid. Question peut-être pour terminer cette émission un petit peu plus personnelle. Alexandre Devecchio, qu'est-ce que retenez-vous de ces deux ans de pandémie, de ces deux ans sous restriction?
L'idée
à
que
titre peut-être plus personnel, justement.
À titre plus personnel, j'ai pas forcément d'idée comme ça. Je dirais ce que je retiens à titre personnel, c'est la chance de ne pas avoir vécu de drame personnel. Je sais qu'il y a des familles qui ont été endeuillées. À titre plus général, c'est que je crains que le fameux monde d'après, qui devait être meilleur, ça devait être une occasion de tout penser, pourrait être pire que le monde d'avant, pour les raisons que nous avons indiquées. Une société du sans contact n'est pas une société humaine, n'est pas une société souhaitable.
Julien Drey.
D'abord, je pense à un certain nombre d'amis, membres de famille qui ont disparu, parce que c'est ça aussi la réalité du Covid. J'ai des amis que j'aurais bien aimé avoir à mes côtés encore, qui n'étaient pas pressés de partir, si vous me permettez, et des membres de famille, ma famille aussi. Donc c'est ça d'abord le Covid. Il ne faudra jamais l'oublier. Premier aspect des choses, avec des tâtonnements médicaux qui ont conduit, je pense que certains d'entre nous ont été témoins, à des graves erreurs, et qu'il y a des décès qui n'étaient pas forcés. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, moi à titre personnel ensuite, c'est une grande désespérance parce que je me suis ennuyé des autres pendant le Covid. Et moi, j'ai besoin des autres.
C'est un joli mot de la fin, cher Julien Drey. Merci à vous deux d'avoir été là avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actu continue sur CNews. On se retrouve dans une heure. À tout à l'heure.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer a 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.